Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la prison, établissement clos aménagé pour recevoir des délinquants condamnés à une peine privative de liberté ou des prévenus en instance de jugement, nous apprend le dictionnaire. Dans les faits, en France, c'est 63 185 détenus au 1er octobre 2008 pour moins de 51 000 places et un nombre moyen de 3 détenus par cellule de 15 mètres carrés. Où petits malfrats croisent grands délinquants, où ceux qui sont en instance de jugement croisent ceux qui sont en rétention à perpétuité, c'est 96 suicides et morts suspectes depuis le 1er janvier 2008 jusqu'à ce jour où nous enregistrons cette émission au 3 novembre 2008. Ceux qui sont emprisonnés ne sont pas des enfants de cœur, ils purgent des peines relatives à leurs crimes par décision de justice, mais dans quelles conditions? L'Académie nationale de médecine, dans son rapport daté du 21 octobre 2008, constate des carences graves de l'hygiène, l'absence de permanence médicale, la transgression fréquente du secret médical, l'insuffisance de prise en charge psychiatrique. La prison est-elle bien la place de ces détenus lorsque l'on estime que 25% d'entre eux présentent des troubles psychiatriques? Que faire face à l'insuffisance de suivi à la sortie, facteur de récidive? En d'autres termes, quel est l'état des lieux de la santé mentale en prison? C'est en compagnie de deux membres de ce rapport que nous allons faire le point sur la question. Professeur Marc Gentilini et Jean-Pierre Ollier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à Canal Académie, au cœur de l'Institut de France. Pour vous présenter en quelques mots, Marc Gentilini, vous êtes président pour l'année 2008 de l'Académie nationale de médecine et coordinateur du rapport La santé en prison, avec Madame Monique Adolphe, également membre de l'Académie nationale de médecine. Et Jean-Pierre Roulier, vous êtes chef de service de santé mentale et de thérapeutique de l'hôpital Sainte-Anne, correspondant de l'Académie nationale de médecine et expert national agréé auprès de la Cour de cassation. Pour démarrer sur ce thème qui est toujours dans l'actualité au regard des suicides que l'on voit dans la presse, dans les médias, Jean-Pierre Ollier, pourriez-vous nous faire un peu l'état des lieux sur la santé mentale en prison?
Comme vous l'avez dit, en prison, il n'y a pas que des enfants de cœur. Il est évident qu'il y a des hommes, surtout des hommes, hein, 96% de la population carcérale est masculine. Il y a des hommes qui ont, pour la majorité d'entre eux, commis des actes délinquants, voire des actes criminels. Mais ce qu'il faut aussi bien savoir, c'est que ces hommes et ces femmes sont des hommes et des femmes qui ont des éléments de vulnérabilité extrêmement graves, attesté par ce que vous avez dit, 25% d'entre eux présentent des troubles mentaux. Et ce qui est très émouvant, c'est de savoir que la moitié de ces 25%, c'est-à-dire à peu près 13% des personnes en prison en France aujourd'hui, sont malades de schizophrénie. Alors que la schizophrénie concerne 1% de la population générale, elle concerne 13% de la population carcérale. Ce qui a conduit le comité national d'éthique en 2006 à déjà s'émouvoir de cette situation et à dire que les prisons ne devaient plus continuer à remplacer les hôpitaux psychiatriques exsangues de moyens.
Mais c'est l'unité carcérale qui va révéler ces psychoses, ces schizophrénies? Alors,
non, ce serait trop facile de dire que le milieu carcéral va révéler. C'est vrai que les sujets porteurs d'une vulnérabilité aux troubles schizophréniques, alors qu'ils ont de la difficulté à communiquer avec l'extérieur, paradoxalement, ils ne supportent pas d'être en situation de privation de communication avec l'extérieur. Et c'est vrai que donc la prison est un élément qui peut révéler leur vulnérabilité. Mais en réalité, la réalité est beaucoup plus grave. La réalité est que aujourd'hui, il y a une réduction impressionnante du nombre de cas d'irresponsabilité pénale pour motif psychiatrique. De quoi s'agit-il? On considère depuis toujours, je dirais, depuis les Romains, que lorsqu'un malade mental commet un crime, il est déjà suffisamment puni par la nature sans avoir besoin de la punition des hommes, et surtout le fait que la punition n'est pas un moyen de traitement efficace pour éviter une éventuelle récidive. Or, Que constatons-nous ? C'est la réduction de la fréquence des irresponsabilités pour motifs psychiatriques, probablement pour des raisons complexes, non pas parce que les experts psychiatres sont devenus sots, non pas parce qu'ils ne savent plus faire un diagnostic de schizophrénie, mais parce qu'ils considèrent que, alors il y a des arguments qui sont, premièrement, le schizophrène, pas certaine de schizophrénie, doit être, comme tout un chacun, tenu pour responsable de ses actes. Responsable, pourquoi pas, mais coupable est une autre chose. Ou bien parce qu'il faut que s'inscrivent dans la réalité et qu'il faut les traiter comme ça. Donc des arguments, mais en fait, ce qu'avait relevé le Comité national d'éthique était bien que il y a aujourd'hui une tendance à envoyer en prison plutôt qu'à l'hôpital psychiatrique. Et ceci à un moment où l'hôpital psychiatrique a moins de moyens qu'autrefois.
Marc Gentilini, des médecins dans les maisons d'arrêt, il y en a pourtant. Alors ne pouvons-nous pas traiter ces personnes qui présentent des psychoses dans ces maisons d'arrêt ?
Il y a deux sortes de médecins. Mm-hmm. Les médecins qui soignent les maux courants, les corps, les médecins somatiques, pourrait-on dire. Et puis, il y a les psychiatres, d'autre part, qui font aussi ce qu'ils peuvent dans ce domaine. Mais il faut les deux en prison. Et il ne faut pas oublier, à côté de la psychiatrie, que la médecine au quotidien, en quelque sorte, à la disposition des détenus, est une obligation depuis la promulgation de la loi du 18 janvier 1994, qui est une loi révolutionnaire, qui est une loi excellente.
Mais peu appliquée.
Qui est une très bonne loi, qui a été appliquée très vite et qui avait donné lieu à une première évaluation dont j'avais été chargé en 1996 par le garde des Sceaux et le ministre de la Santé et qui m'avait permis de découvrir à l'intérieur des prisons de nombreuses maisons d'arrêt et de nombreux centres de détention que j'avais visités à travers la France que cette loi avait commencé à être mise en place pour le plus grand bénéfice des détenus. C'est une très bonne loi. L'ennui, c'est qu'elle a été appliquée au départ et qu'elle a été abandonnée progressivement, faute de moyens souvent, faute de volonté parfois, et qu'actuellement, on peut dire qu'à partir de cette loi, la responsabilité de la santé des détenus n'appartient plus au garde des Sceaux, mais au ministre de la Santé. C'est ça, la révolution de 1994 dans les prisons au point de vue sanitaire.
Mais aujourd'hui, cette loi ne semble plus suffire, alors.
Non, elle est suffisante si elle est appliquée. Or, elle n'est pas appliquée suffisamment. Il faudrait qu'on donne un certain nombre de moyens supplémentaires pour que la loi de 1994 soit appliquée. Et si elle était appliquée dans sa totalité, et non pas partiellement, si elle était appliquée rigoureusement, nous aurions de quoi considérer que l'accès aux soins du détenu est le même que l'accès aux soins du sujet libre. C'est ça l'esprit de la loi de 1994, faire du détenu un homme, une femme plus rarement, qui est pleinement accès aux soins qui lui sont dus.
Alors aujourd'hui, en 2008, quel est l'état des lieux ? Et ces prisonniers, par exemple, lorsqu'ils ont besoin de soins, sont-ils traités pour leurs troubles ?
C'est très difficile parce que les soins relèvent de médecins à l'intérieur des prisons, d'unités particulières qu'on appelle des UXA, qui sont des unités de soins pour tout le monde. Et ces UXA, si elles veulent demander l'avis d'un spécialiste à l'hôpital de référence local, sont obligés de prévoir une escorte. Il faut que le prisonnier soit accompagné. Or, cette escorte ne dépend plus du ministère de la Santé, mais du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur, s'il s'agit de gendarmes. Et c'est là que le manque de moyens se fait sentir. Il n'y a pas suffisamment d'escorte, ça coûte très cher pour accompagner le prisonnier. Vous savez qu'il y a des prisonniers qui s'échappent lors d'un transfert. Et parfois des détenus dangereux, donc il y a lieu de faire attention à ce qu'on fait. Mais c'est difficile et il faut qu'il y ait actuellement, nous semble-t-il, une concertation entre tous les acteurs des interventions en milieu carcéral pour trouver la voie des solutions pragmatiques qui s'imposent, d'urgence, et trouver ou essayer d'arracher les moyens qui permettrait l'application de ces décisions.
Pour revenir à ces suicides dont on parle assez régulièrement dans les médias, qui sont ces personnes qui font des tentatives de suicide ou qui se suicident? Ce sont des personnes qui ont des longues peines ou qui font de la préventive, enfin qui sont en détention préventive.
Si Jean-Pierre Ollier me permet de répondre dans un premier temps, je dirais qu'il ne faut pas être obnubilé par les suicides en prison. C'est un indicateur du mal-être des prisonniers, des détenus, mais il ne faut pas regarder que cela. Et il faut savoir que le suicide intervient souvent au début de l'internement, que des sujets qui sont en grande précarité au dehors, les psychiatres connaissent bien ces situations, et qui sont brutalement privés de liberté, ne supportent pas cette mise à l'index, en quelque sorte, cette privation du contact avec l'extérieur, les amis, la famille. Et il existe un bon nombre de suicides qui surviennent dans les premiers jours de l'internement. Et puis il y a les suicides qu'on devrait pouvoir prévoir, qui sont ceux qui surviennent avec une dégradation de l'état psychologique des sujets incarcérés. Et cela, Jean-Pierre Ollier en parlerait mieux que moi.
Mais Jean-Pierre Ollier, justement, est-ce que finalement tous les prisonniers doivent en passer par là, en d'autres termes? Est-ce que c'est parce que voilà, la promiscuité, le peu de place fait qu'on en vient au suicide?
Ce sont des populations très vulnérables. Vulnérables d'un point de vue social, d'abord. Plus de la moitié sont dans des situations de précarité, n'ont pas d'emploi, ont eu des scolarités difficiles, ont des milieux familiaux complètement éclatés. Vulnérabilité psychologique individuelle. La grande majorité ont des antécédents psychiatriques, ont été soignés ou suivis en psychiatrie, ont consommé des toxiques. Donc, ce sont des personnes, en fait, très, très fragiles. Et d'où, effectivement, l'importance, comme l'a dit Marc Gentilini, de la loi de 1994 qui a permis en quelque sorte au ministère de la Santé de rentrer dans les prisons par l'intermédiaire de soignants, médecins et non-médecins, qui aller et qui vont dispenser des soins aux détenus comme aux autres. Effectivement, le suicide, c'est le symptôme émergent, mais ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé dans les dernières années est très exemplaire et très indicateur à propos du suicide. En 2002-2003, l'autorité pénitentiaire s'est préoccupée de la question du suicide. Elle a voulu savoir un tout petit peu les déterminants et ce qui a été montré grossièrement, ce qui a été souligné plutôt, c'est que le risque suicide doit être l'affaire de tous. L'affaire de tous au sein de l'institution carcérale, c'est-à-dire des personnels pénitentiaires aussi bien que des personnels sanitaires. Et lorsque on a mis en place des actions de prévention du suicide à partir de 2003, on a vu diminuer le taux de mortalité par suicide à peu près de moitié, et puisqu'il est actuellement environ, et en 2008 il sera probablement comme en 2007, environ aux alentours autour de 15 pour 10 000, alors qu'il était pratiquement de 30 pour 10 000 avant que l'autorité pénitentiaire s'en préoccupe. Donc, il est possible, il est nécessaire de faire des choses. Et je voudrais, par rapport à ce que disait Marc Gentilini sur la loi de 94, je veux dire, pour ce qui concerne la psychiatrie, en fait, moins d'un établissement pénitentiaire sur 5 dispose de structures psychiatriques qui sont là pour distribuer des soins aux malades éventuels incarcérés. Deuxièmement, lorsqu'il n'y a pas de telle structure spécifique, qu'on est ce qu'on appelle des services médicaux pénitentiaires, lorsqu'il n'y a pas ces services, normalement les services de psychiatrie publique qui travaillent pour la population générale doivent aller travailler dans le cadre de la prison
et, ça, est-ce que
et
c'est
dispenser
effectif,
les soins. Si le ministère de la Santé se préoccupait de ce qui est fait ou pas fait dans les prisons, comme il doit se préoccuper de ce qui est fait ou pas fait dans les hôpitaux, eh bien, la loi de 94 serait appliquée. Or, un des problèmes, de mon point de vue, c'est aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas du tout. Il n'y a aucune enquête pour savoir quelles sont les situations locales. Est-ce que c'est fait? Et surtout, est-ce qu'est mis en place cette condition essentielle qui est la continuité des soins? Parce qu'il faut donner des soins pendant le séjour dans le milieu carcéral pour atténuer la souffrance, pour prévenir les troubles du comportement, parmi lesquels les passages à l'acte suicidaire. Mais il faut aussi se soucier de poursuivre ces soins lorsqu'ils sont nécessaires après l'incarcération. Et là,
le bon sens nous indique qu'il y a un gros manque.
Je vous propose de marquer une première pause, si vous voulez bien, Jean-Pierre Ollier, Marc Gentilini. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. A tout de suite.
Pierre Schoendoerffer fut d'abord marin sur un vaisseau suédois pour avoir lu L'île au trésor et les livres de Jack London. Il réfléchit par une nuit tranquille à son destin, à son envie de renvoyer un écho de ce qu'il vit et décide de devenir cinéaste. Mais le cinéma, dit-il, c'est le château de Kafka. Pour pouvoir y entrer, il faut être dedans. Il postule alors à la place d'un caméraman aux armées et devient le grand témoin d'après-guerre. La suite, on a pu la lire, on a pu la voir. On peut désormais l'écouter. Cet entretien au micro d'Elisabeth Antebi est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Jean-Pierre Ollier et de Marc Gentilini. Dans cette deuxième partie d'émission consacrée à la santé en prison, revenons quelques instants, si vous le voulez bien, sur la surpopulation dans les prisons. On crée de nouvelles places, en tout cas c'est une politique, et parallèlement, vous nous dites, Jean-Pierre Ollier, que de nombreuses personnes seraient mieux dans les instances psychiatriques plutôt qu'en prison. Alors faut-il développer les prisons ou les unités pour malades difficiles comme on peut en trouver quelques-unes en France. Je pense à Cadillac, je crois.
Je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. Il y a les malades mentaux qui n'ont rien à faire en prison. Et le scandale aujourd'hui, c'est que bon nombre de détenus sont des malades mentaux.
C'est les 25% dont vous nous parliez.
Voilà. Et puis, deuxièmement, il y a chez les sujets délinquants un certain nombre de manifestations de souffrance qui rendent nécessaire une réponse sanitaire. Et il peut s'agir à ce moment-là de dépression, de troubles anxieux, de conduite suicidaire. Ce sont deux choses bien séparées. Les malades mentaux, d'une part, pour lesquels la place est, de mon point de vue, dans des structures exclusivement sanitaires, même si ces structures doivent éventuellement être privatives de liberté à certains moments de la maladie. Et puis, d'autre part, donc, les délinquants qui sont au-delà des questions qui ont commis des actes, mais qui sont des personnes qui ont des indices, qui ont des éléments de très grande vulnérabilité et qui donc ont besoin d'aide et de réponses sanitaires, ce qu'a voulu la loi de 1994 et ce que raisonnablement nous devons mettre en place.
Marc Gentilini, également sur cette question.
Oui, on pourrait reprocher aux psychiatres d'avoir fermé les asiles psychiatriques et d'avoir mis dehors un certain nombre de malades qu'on retrouve maintenant en prison et qu'ils regrettent de voir incarcérés à juste titre. Mais je ne ferai pas ce mauvais procès et qui est complètement dépassé aujourd'hui. Mais incontestablement, il faut revoir les structures d'accueil de ces malades mentaux. Et ils ne doivent pas, je ne fais que confirmer ce que Jean-Pierre Ollier vient de dire avec compétence, ils ne doivent pas séjourner en prison. Et il faut donc qu'il y ait dans les prisons des psychiatres en nombre suffisant et qualifié qui puissent détecter un prisonnier qui n'a rien à y faire et dire je veux récupérer celui-là parce que c'est pas sa place ici et que la situation d'enfermement ne va que détériorer un peu plus sa situation mentale. De même, il faut faire la différence entre les malades mentaux qui n'ont rien à y faire et les désordres qui amènent un certain nombre de délinquants en prison. Mais le drame aussi, c'est que la prison va aggraver ces désordres et que il faut tout faire pour que à l'intérieur de la maison d'arrêt, hein, le plus souvent, il y ait tout pour que le sujet retrouve son équilibre.
Alors en cela, est-ce que la semi-liberté, le bracelet électronique, est une solution qu'il faut encore plus développer ?
Jean-Pierre Ollier va répondre. Moi, j'ai préconisé le bracelet électronique, le port du bracelet électronique, en 1976, alors qu'on commençait à en parler. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être plus généralisé, qui devrait soulager les prisons et l'enfermement tel qu'il est en place actuellement.
Mais après, il faut gérer peut-être aussi l'opinion publique, qui n'a peut-être pas forcément envie de voir tous ces...
L'opinion publique n'est pas forcément contre le bracelet électronique.
Oui. Jean-Pierre Ollier.
L'opinion publique, c'est nous.
Et moi, je pense, Marc Gentilini dit que les psychiatres ont fermé les hôpitaux psychiatriques et que ensuite certains malades mentaux se retrouvent en prison. Les psychiatres ont fait ce que la société a voulu. Les psychiatres n'ont été que les exécutants. Et de la même manière, la prison et les personnes qui travaillent avec beaucoup de mérite et en globalement beaucoup de compétences dans les prisons, les personnes finalement font ce que notre société leur demande de faire. Et qu'est-ce que notre société, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous voulons une prison qui occulte, qui efface de notre environnement un certain nombre de personnes parce qu'elles ont eu tel ou tel comportement ? Ou est-ce que nous voulons, nous, effectivement, une prison qui protège la société, c'est bien le moins que l'on puisse attendre, mais aussi qui fasse tout ce qui peut être fait pour traiter dignement et humainement les personnes qui y sont, et in fine, pour rendre possible leur retour à une vie normale ensuite. Et je pense donc, cher président, que dire que les psychiatres, etc., c'est vrai que les psychiatres ont voulu limiter le nombre de cas de privation de liberté parce que nous psychiatres...
Je pense qu'ils ont eu raison.
Parce que nous psychiatres avions des moyens thérapeutiques que nous n'avions pas auparavant, mais aussi parce que nous avons voulu de cette manière peut-être tirer un certain nombre de moyens vers des soins ambulatoires. Mais aujourd'hui, il faut réajuster les choses à l'évidence et il faut, je dirais, balayer devant notre porte à nos psychiatres. Mais il faut aussi balayer devant notre porte à nous citoyens. Est-ce que notre société est de moins en moins tolérante ou est-ce qu'elle a une capacité à être davantage tolérante? Je crains qu'elle soit peu tolérante dans notre société.
Et Jean-Pierre Ollier, est-ce que vous pensez que justement la population, la société civile réagit de la même manière entre des adultes qui sont incarcérés et des mineurs? Parce que voilà, on parle aussi assez souvent de ces mineurs en détresse.
Quand vous parlez à un psychiatre, il ne peut pas méconnaître que notre société a beaucoup investi pour essayer de soigner les enfants, mais dès lors que ces enfants handicapés deviennent adultes, notre société est évidemment beaucoup moins préoccupée, beaucoup moins attentive. Et donc, la question des mineurs en prison est une douloureuse question, bien sûr. Donc, ces mineurs, ils ont une vulnérabilité toute particulière au présent, en particulier sur le plan suicidaire, et au futur, parce que il est facile de concevoir qu'on ne construit pas des êtres avec des grandes capacités d'adaptation dans le milieu carcéral. Donc, en prison, comme dans les établissements psychiatriques, il y a beaucoup d'investissements pour les mineurs. Il faudrait qu'il y ait au moins autant d'investissements pour les adultes.
Et vous, Marc Gentilini?
Les mineurs, ça fait toujours pleurer.
Oui.
Je me souviens, au cours d'une visite d'une prison, on m'introduit dans une cellule où il y avait un mineur, je crois qu'il avait 15 ans, il en paraissait 13, petit, physiquement pas très réussi. Il avait tout cassé dans la nuit, y compris son poste de télévision, ce qui était aberrant puisqu'il se donnait des coups à lui-même. Et j'ai parlé avec lui, d'abord il était très hostile, très hostile. Il m'a insulté, et puis progressivement, il s'est calmé. Et le surveillant est entré au bout d'un certain temps pour dire « Docteur, il faudrait peut-être que vous alliez voir une autre cellule. » Et à ce moment-là, ce jeune, ça m'a beaucoup touché, s'est jeté dans mes bras.
Pour que
vous
restiez.
Il m'a dit « Ne pars pas, ne pars pas. » Je crois qu'il y a chez le mineur incarcéré un manque, une privation d'affection qu'il ne trouve pas au dehors et qui l'amène parfois à commettre un délit ou voire un crime, et que il faut que le visiteur de prison, par exemple, l'aumônier dans certains cas, le travailleur social au sein de l'établissement, puisse apporter un peu d'amour, beaucoup d'affection, et que ces enfants, parce que ce sont des enfants qui sont violents, très violents, qui ont commis des actes qu'on ne peut pas accepter, sachent que cet acte
doit être puni, mais que cette punition est une forme d'amour.
Donc il y a bien sûr une dimension de solitude. Alors finalement, ces enfants, quand ils sortent, sont-ils réinsérés ou sont-ils cassés? C'est toute la question que l'on se pose.
Ils sont cassés avant d'entrer. Malheureusement, il y a toute une génération qui me paraît très mal partie actuellement. Plusieurs générations peut-être. Il faut faire en sorte qu'il y en ait le moins possible et que cette cassure soit réparable pour beaucoup d'entre eux. Mais je crois qu'il y a vraiment une situation dramatique d'une partie de la société et que tous les plans banlieues, tous les regards attendris, toutes les déclarations politiques sur les banlieues, il leur manque une dimension. Il y a cette dimension sur laquelle j'insistais à l'instant, c'est-à-dire il faut retrouver le chemin des cœurs de chaque individu, et que là, on aura peut-être une amorce de solution et une chance de réinsertion.
Mais j'imagine, par exemple, les victimes qui doivent vous entendre, elles doivent avoir le poil qui se hérisse et se disent, c'est la loi du talion, ces personnes purgent des peines parce qu'elles ont commis des crimes.
Pas toujours. Sans parler de ce que les psychiatres appellent le syndrome de Stockholm, je crois, les victimes sont parfois plus tolérantes. Attendez, il y a une chose essentielle pour la victime, il faut que pour être pardonné, pour que le pardon soit accordé, il faut que le pardon soit demandé. Or, ce qui est fréquent, c'est que l'auteur d'un crime ne demande pas pardon à la famille de la victime. Et c'est pour cela que, et même quand il demande pardon, c'est difficile, mais parce qu'il y a la douleur qui est là, il y a le souvenir. Mais quand le pardon est sollicité, je trouve que la société, souvent, accepte d'accorder ce pardon.
Il y a moins de vengeance.
Il n'y a plus l'esprit de vengeance.
Jean-Pierre Ollier.
Je dirais ce qu'a dit Marc Gentilini sur les enfants. Moi, je voudrais le dire aussi sur les adultes. Je veux dire qu'on est frappé, avec les personnes qui sont en prison, effectivement, on est frappé du fait que lorsqu'on prend du temps, et lorsqu'on leur donne du temps, de l'attention, eh bien, finalement, on découvre ce qu'elles ont d'humain. Et parfois, c'est vertigineux ce qu'elles ont d'humain, mais en tout cas, ces personnes, on arrive à avoir une relation. Est-ce que les enfants sont cassés? Moi, j'ai accueilli dans mon service la semaine dernière un homme de 32 ans qui a passé 13 ans de sa vie en prison. 32 ans, il a passé 13 ans déjà, il a totalisé 13 ans en prison pour à peu près 22 ou 23 affaires. Heureusement, pas de crime, mais 22 ou 3. C'est sûr qu'il aurait été plus simple de le rencontrer à 12 ans ou à 13 ans, et probablement plus simple de travailler et d'essayer d'améliorer qu'après un tel parcours. Mais néanmoins, quand on prend le temps, et je veux dire, il a posé des gros problèmes, je l'ai revu ce matin, si on prend le temps, eh bien, c'est un homme comme nous, et on y trouve des choses humaines. Et donc, il y a là quelque chose qui est, au fond, et on ne peut pas le demander simplement aux personnes qui travaillent en prison. Ça, je crois que c'est une question à chacun d'entre nous, à l'extérieur, à chacun d'entre nous, et même à chaque institution, je pourrais dire. Est-ce que les académies, par rapport à la prison, est-ce que les académies sont volontaires pour faire quelque chose, pour marquer éventuellement, pour tutorer éventuellement des personnes qui pourraient aider? Je crois qu'il y a là des vraies questions qui renvoient à chacun de nous, un tout petit peu, nos capacités de tolérance et aussi nos limites par rapport à la tolérance. Et sur les victimes, je voudrais ajouter une chose. Sur les victimes, au fond, les victimes, bien sûr que la réaction émotionnelle que chacun a, logiquement, c'est celle de la colère, c'est celle de la vengeance. Mais cette réaction n'est pas forcément le meilleur guide. Et donc, ensuite, il y a tout un travail de pédagogie. Et par exemple, aujourd'hui, lorsque un criminel est déclaré irresponsable pénalement pour motif psychiatrique, eh bien, il y a une confrontation entre ce criminel, les experts qui ont déclaré l'irresponsabilité et les familles des victimes. Et ceci me paraît tout à fait opportun sur un plan pédagogique et d'aide pour la compréhension de la façon de traiter le cas.
Alors juste avant de vous passer la parole, Marc Gentilini, sur le problème récurrent des récidivistes, où là, des familles de victimes ou des victimes se disent « j'ai été agressée » ou « on m'a agressée, la personne qui m'a agressée est sortie de prison, il est récidiviste, multi-récidiviste ».
Mais attendez, je veux dire,
Les taux de récidive sont tout à fait bas. Je ne pourrais pas les citer de mémoire, mais évidemment. Mais lorsqu'il y a un cas, il est évidemment de trop. Et lorsqu'il y a un cas d'atroce récidive, de viol, de meurtre, évidemment, on prend ça en pleine figure. Et tout l'horizon est obscurci par ça. Mais ceci ne doit pas faire ignorer que ce sont les exceptions. Alors, on ne peut pas garantir qu'on va aller sur le boulevard périphérique ou sur l'autoroute sans accident. Mais c'est pas, on ne s'attend pas à l'accident. Et donc, lorsqu'une personne a commis un acte, lorsqu'une personne a été punie, toute la question, c'est comment peut-on améliorer, premièrement, la façon de traiter humainement, parce que si on traite humainement, c'est une des conditions pour qu'ultérieurement, la personne reste humaine ou redevienne davantage humaine. Et deuxièmement, comment, quelles actions psychologiques, médicamenteuses, rééducatives doit-on entreprendre? Et c'est la question qui est posée aujourd'hui par les centres de rétention qui sont annoncés.
Marc Gentilini, pardon, je vous laisse la parole.
Oui, je suis tout à fait de l'avis de Jean-Pierre Ollier. Je veux dire que c'est vrai que la victime est d'abord le plus souvent en colère contre l'injustice qui lui a été faite de ce désastre familial, souvent. C'est la colère. Elle est partagée, la colère. Mais plus que la vengeance, que le désir de vengeance, c'est le désir de justice qui prévaut. Et ce que les victimes réclament, c'est la justice. Je veux que justice soit rendue. Et elles ne sont pas toujours d'accord, ces victimes, avec la justice qui est rendue par les juges officiels. Mais c'est ce qu'elles demandent, c'est la justice. Sur la récidive, je dirais que c'est vrai, la récidive est mise en valeur au niveau de deux situations qui sont celles du viol et le meurtre, et plus particulièrement le meurtre d'enfants. Et alors, là, évidemment, on conçoit tout à fait que la société soit sensible à ces situations-là. Mais comme le dit Jean-Pierre Ollier, c'est vraiment heureusement.
Et le gouvernement répond quand même.
Oui, il répond. Il répond. Et vous voyez combien c'est difficile, parce qu'il répond, mais il est immédiatement attaqué. Il y a à la fois la société qui demande justice et qui veut qu'on mette à l'abri ces violeurs potentiels récidivants, mais il y a toutes les associations qui protestent dans le même temps en disant « mais attention ». Moi, je suis frappé d'une chose, c'est que les coupables réclament aussi le respect de leur dignité. Regardez les images de télévision qu'on a vues il y a quelques jours de ce violeur qui était sorti sur une faute de procédure.
Infirmé au lieu de confirmer pour la
décision. Violeur potentiel. Mm-hmm. Il s'est retrouvé, les images le montraient bien, de nuit, car la levée d'écrou est souvent nocturne, le soir, trop tard. Et sur la voie publique, il ne s'y attendait pas, il n'était pas préparé. Tous les facteurs sont réunis pour qu'éventuellement il puisse recommencer, parce qu'il n'aura pas d'autre solution. Il est dehors. La société est incapable de préparer sa sortie. Elle l'a mise dehors par une erreur, ou parfois volontairement, parce que c'est un juge qui a décidé qu'il fallait faire sortir le prisonnier.
Eh bien, la transition est toute trouvée. On marque une pause. Et dans la troisième partie de l'émission, nous allons parler de la réinsertion et de la préparation à la sortie. À tout de suite.
Révisez vos connaissances sur Canal Academy avec le Dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger librement sur Canal Academy.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Marc Gentilini et de Jean-Pierre Ollier. Dans cette dernière partie, nous allons bien sûr parler de réinsertion, de ce difficile problème de réinsertion. Je vous propose de lire un paragraphe rédigé par Jean-Philippe Caudron, qui est membre du mouvement pour la réinsertion sociale des sortants de prison, un mouvement fondé en 1970, qui s'appelle également le MRS. Le constat, c'est que ces anciens détenus souffrent de dépendance à l'alcool, à l'usage usage de stupéfiants, souffre d'illettrisme, il y a une rupture familiale et l'absence de ressources, car trop nombreux sont les détenus qui sortent sans carte d'identité, par exemple. Et sans carte, bien sûr, pas d'inscription aux ACEDIC, à la NPE, à la CMU, donc en fait, un refus d'insertion dans la société civile. Jean-Pierre Ollier, quel est, vous, votre constat en tant que psychiatre ?
Il y a un mot qui devrait être vraiment le maître mot dans ces situations, c'est réintroduire de la continuité. Il y a la personne qui se retrouve en prison, c'est une rupture, bien sûr, rupture qui, soit qui lui tombe dessus de manière injustifiée, parce qu'il y a ça aussi, hein, pour les prévenus, soit de manière, parce qu'il y a un acte, hein, c'est-à-dire tout à fait motivé, et cette personne, donc, a affaire à un nouveau monde, qui est la prison, puis après, tout d'un coup, on lui dit, c'est fini, vous sortez, elle se retrouve dehors, alors que vraiment, ce dont ont besoin l'immense majorité de ces personnes très fragiles, c'est d'un accompagnement, et d'un accompagnement construit sur mesure, en fonction des besoins psychologiques, en fonction des besoins sociaux, non pas pour les mettre dans une position d'assistés, de dépendance, mais pour les aider à se préparer à l'étape suivante qui les attend.
Mais aujourd'hui, il n'y a aucune mesure de réinsertion, il n'y a rien du tout ? Jean-Pierre
Ollier ? Je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas véritablement de mesures.
Ne serait-ce que pour les dossiers médicaux, par exemple. Est-ce qu'un dossier médical en prison va être suivi par le médecin à la sortie ?
Pas du tout. Je puis vous dire que, pareil, dans l'hôpital où je travaille, on reçoit des sujets. Ils ont une injonction de soins, éventuellement. On n'a même pas le dossier. Le dossier n'est pas transmis. Il n'y a aucune continuité, aucune cohérence autour d'eux. Ce sont des décisions qui se prennent les unes derrière les autres, qui chacune, le problème n'est pas de contester, de dire chacune a sa raison d'être, chacune de ses décisions, mais il n'y a pas de cohérence, de prospective véritable. Moi, ce dont je rêve, c'est, je veux le dire, ce dont je rêve, c'est lorsque quelqu'un est privé de liberté, que au moins dans les 12 mois qui précèdent sa sortie au minimum, et il y ait un programme de social, un programme de rééducation psychologique, d'accompagnement qui soit mis en place, que ceux qui vont travailler sur ce programme en soi soient impliqués dans la définition de ce programme, avec l'intéressé lui-même, bien sûr, et qu'ensuite ce programme soit mis en œuvre, soit par étapes, soit progressivement, soit d'un seul coup lorsqu'il va sortir, mais que tout ceci soit préparé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Et la loi de 1994 ne prévoyait pas ces mesures de réinsertion initialement, Marc Gentilini, vous qui connaissez bien.
Dans le rapport que j'avais présenté au garde des Sceaux à l'époque, j'avais fait une proposition qui était mesures avant l'incarcération, parce qu'il faut faire de la prévention aussi. Si on ne veut pas que les prisons soient pleines, il faut prévenir le délit ou le crime. Deuxièmement, pendant l'incarcération. Et troisièmement, après l'incarcération, c'est-à-dire à la sortie. Je voudrais faire quelques réflexions, oui, en complément de celle que vient de faire Jean-Pierre Ollier. D'abord, je voudrais dire que les familles des détenus sont aussi à prendre en considération. Car il y a une double peine, là. Il y a la peine contre celui qui est incarcéré et la peine contre la femme et les enfants, qui sont dans une situation de grande précarité renforcée par la suite de la disparition du chef de famille, pour un temps à déterminer. Et ces familles des détenus doivent faire les voyages, doivent aller dans les prisons. Quand j'étais président de la Croix-Rouge, j'avais voulu créer des zones d'accueil de ces familles autour des prisons, parce que attendre sous la pluie, comme dans certaines régions, dans le froid, l'ouverture de la prison pour voir le détenu, c'est long, c'est pénible, c'est douloureux. Donc les familles des détenus à prendre en considération, et la considération qu'on accorde aux familles des détenus, c'est un peu de la préparation à la réinsertion, parce que le lien à maintenir entre la famille et le détenu est ténu du fait de l'incarcération, il faut le renforcer, surtout pas le couper. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait autour des prisons de tout petits centres d'accueil, de sortes de mobilhomes. J'avais souhaité faire cela à côté de Fleury-Mérogis.
5 000 détenus sur les 55 ou 60 000 détenus de France. 55 000 peut-être.
Énorme.
Autour, c'est énorme, Fleury-Mérogis. Et il y a ces sorties à n'importe quelle heure, mais surtout tard, le soir, de gens qui sont à la rue et qui ne savent pas où aller, qui est au moins une structure d'accueil pour leur dire, alors voilà ce qu'il faut faire, voilà un ticket de métro, voilà les quelques euros nécessaires pour survivre jusqu'à une réinsertion provisoire. Et puis, il y a peut-être davantage, il y a une sorte de convoyage à l'intérieur de la prison et au dehors. Et Mme Adolphe et l'Académie de médecine, nous avons proposé un tutorat qui est difficile à l'intérieur parce qu'il viendrait se chevaucher les visiteurs de prison, mais à l'extérieur, ce tutorat qui permettrait un suivi et proposerait au moins un tuteur physique à celui qui est largué à nouveau dans la société. Alors, je crois que tout ça est très important et que ça nous manque beaucoup actuellement. Et cette réinsertion, elle est pourtant fondamentale. C'est la réinsertion, c'est la condition nécessaire pour qu'il n'y ait pas ou moins de récidive.
Alors, vous parlez de famille. Il y a une radio qui s'appelle Radio Pays, qui est un radio pays en Corse, où tous les mercredis soirs, j'en parle, hein, tous les mercredis soirs de 22h à minuit, il y a les familles des détenus qui appellent et qui laissent des messages, comme on pourrait laisser des messages sur répondeur à des détenus. Et Radio Pays est une radio associative. Alors, on en vient à cette question-là. Est-ce que finalement, la réinsertion par petite étape, finalement, ne vient-elle pas à chaque fois d'action bénévole ? Est-ce qu'on ne compte pas un peu trop sur le bénévolat ? Jean-Pierre Ollier.
C'est difficile. Est-ce qu'on ne compte pas trop sur le bénévolat ? D'une certaine manière, moi je dirais oui, sans doute. Puisque j'ai le fort sentiment qu'il n'y a pas le travail avec la technicité qui me paraît justifiée pour ce type d'entreprise périlleuse et difficile toujours, parce que c'est difficile. Alors, le bénévolat est aussi un symptôme du fait que dans notre environnement, donc, des personnes sont capables de se mobiliser pour cette cause. Et là aussi, ces personnes qui sont donc des symptômes, mais finalement, ça veut dire quelque chose, ça veut quand même dire, et c'est un signe encourageant. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas assez de bénévolat, d'une part, et d'autre part, qu'il n'y a vraiment pas assez d'actions professionnelles avec une capacité technique, ce qui pour moi n'exclut pas l'aspect humain, mais avec une capacité technique, je pense à des techniques de rééducation, d'apprentissage, avec des apprentissages sur le plan cognitif, sur le plan comportemental, voire sur le plan de la capacité à éprouver des émotions, à éprouver de l'empathie à la douleur d'autrui, à la souffrance d'autrui, et de la capacité aussi à métaboliser ce qu'a pu laisser de traces l'expérience délictueuse ou criminelle et l'expérience de confrontation à l'autorité judiciaire.
Marc Gentilini, vous citiez à l'instant Monique Adolphe sur le tutorat qui serait donc une action bénévole, mais j'imagine que ces bénévoles, il faut les former.
Oui, c'est très important.
Il faut pouvoir quand même prendre sur les épaules des détenus comme ça qui sortent et les aider à les
très important, et le bénévolat, vous savez, sur le bénévolat, on pourrait parler longtemps. Il y a des bénévoles qui sont occupationnels. Bon, c'est une forme clinique comme une autre. On s'ennuie, alors on prend une occupation comme ça. Bon, il y a les bénévoles confessionnels, ceux qui font le bien, qui voient le rachat. Bon. Et puis, ce qu'il nous faut, c'est des bénévoles professionnels. Le bénévolat, c'est pas n'importe quoi. Le bénévolat, ça s'apprend. Et le bénévolat ciblé sur les prisons, ça s'apprend par respect pour les détenus. On ne peut pas lâcher dans les maisons d'arrêt et dans les centres de détention, éventuellement, des visiteurs de prison qui ne soient pas formés.
Oui. Donc il ne suffit pas d'être de bonne volonté. Il faut un bagage derrière.
Il faut de la bonne volonté, même peut-être de la volonté tout court. Mais il faut aussi avoir appris
à se diriger en prison et ce que sont les prisons.
Souhaitez-vous rajouter quelque chose pour terminer cette émission, puisque nous arrivons au terme de notre émission éclairage, Jean-Pierre Ollier peut-être ?
Je veux voir comme un symptôme très important le fait que l'Académie de médecine ait choisi de se pencher sur une question comme celle-ci, parce que c'est quand même une dimension de la médecine, une dimension de notre société, dans la manière dont elle est capable de dispenser des soins ou non, c'est une dimension très importante, et je veux y voir un signe fort et un signe d'espoir. Ce qui se passe en prison reste encore beaucoup trop quelque chose qui doit être effacé, qui doit être caché, au lieu d'être quelque chose qu'il faut gérer, qu'il faut accompagner pour l'améliorer et le limiter, en limiter les conséquences négatives.
Marc Gentilini, un mot pour terminer.
Je pense que les ministres concernés, c'est-à-dire le ministre de la Santé et le ministre de la Justice, ont actuellement beaucoup de chance. Nous sommes début novembre 2008, les prisons sont pleines, la situation est tendue, mais il n'y a pas de grande émeute pour l'instant. Il n'y a pas de menace à court terme. Mais il faut savoir qu'à tout moment, la situation peut exploser. La situation dans les prisons françaises est explosive. Et que si nous ne prenons pas la décision d'urgence aujourd'hui, de lancer une grande concertation entre tous les acteurs du monde carcéral, du judiciaire au sanitaire et au monde associatif réunis pour trouver des solutions auxquelles pourraient être associés les détenus eux-mêmes et déboucher sur des solutions pragmatiques à court terme, alors nous courons un grand risque.
Eh bien, merci de nous avoir donné tous ces détails suite à ce rapport donc du 21 octobre 2008 à l'Académie nationale de médecine. Merci donc de nous avoir donné tous ces détails. J'invite nos auditeurs à aller faire un tour sur le site de l'Académie nationale de médecine où nos auditeurs pourront trouver, bien sûr, les communications de chaque intervenant. Merci à tous les deux. Au revoir.
Merci.